Auditrices et auditeurs des programmes du studio Kalangou, bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. Le forum d'aujourd'hui a pour thème sécurité dans la région de Tawa. Comment se présente la situation dans les départements sous état d'urgence? Quelle est la situation actuelle de la région de Tawa sur le plan sécuritaire? Quels sont les principaux facteurs d'insécurité dans la région? Comment vivent les populations des départements sous état d'urgence, notamment celles de Tassara et de Tilia? Quels sont les défis sécuritaires qui se posent à la région sur ses frontières? Quelles sont les mesures envisagées pour relever ces défis? Pour répondre à ces questions, nous nous entretenons aujourd'hui avec les invités suivants. Monsieur Moussa Abdourahmane, gouverneur de la région de Tawa. Ilo Adamo, président du conseil régional de Tawa. Et Mohamed Yatan, coordinateur de l'Union régionale de la Coordination nationale des travailleurs, CNT Tawa, et il est membre du CCAC, le cadre de concertation et d'action citoyenne des acteurs de la société civile du Niger. Présentation Alassane Kouzi Mahamadou. Sécurité dans la région de Tawa, comment se présente la situation dans les départements sous état d'urgence? C'est la thématique que nous réunit aujourd'hui à Tawa. Tawa partage deux frontières avec des pays voisins, le Mali au nord, ouest et au sud, avec le Nigeria, une proximité qui n'est pas sans conséquences sécuritaires. À partir de 2016, la région connut des attaques terroristes ayant coûté la vie à plus de 20 soldats nigériens et l'enlèvement d'un humanitaire américain. Des événements malheureux dont la succession a conduit à la proclamation d'un état d'urgence dans deux départements de la région, notamment Tassara et Tilia. Nous débutons cette émission avec le gouverneur de la région de Tawa, M. Moussa Abdourahmane. Monsieur le gouverneur, comment se présente la situation sécuritaire aujourd'hui dans votre région, Tawa?
La situation sécuritaire à Tawa, nous pouvons dire que ça va très bien. Il dit bien très bien. Vous le savez, il y a longtemps que cette zone de Tawa, c'était, on peut dire, la zone phare au point de vue sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, vous suivez vous-même, la situation est calme, très calme. Parce que les actions d'antan que vous connaissez violentes, aujourd'hui, il n'y a pas ça à Tawa. Les actions les plus violentes, c'est dans la partie nord. C'est le département de Dabalak, c'est le département de Tchenta, le département de Tassara et de Tilia. En tant qu'action organisée qui vise, en tout cas, les intérêts de l'État, ça n'existe pas maintenant. Nous savons qu'il y a des individus isolés. Ça, c'est partout. C'est pas seulement à Tawa, c'est pas seulement au Niger, c'est pas seulement en Afrique. De l'ensemble de ce monde-là. Il y a toujours des individus isolés qui entreprennent des actions. Ça, nous le savons.
Monsieur le gouverneur, quels sont les principaux facteurs, en tout cas, qui mettent à mal la sécurité, qui tentent de mettre à mal la sécurité dans cette région, Tawa?
Nous, on dit qu'il n'y a pas de situation qui met à mal cette région-là, non. La région se porte très bien, je vous dis. Parce que l'État nous a donné les moyens, avec toute la responsabilité que nous avons, pour, en tout cas, gérer au quotidien tout ce qui peut intervenir, ni les moyens nécessaires au point de vue donc à la force de défense et de sécurité qui veille matin, midi et soir dans cette zone-là. C'est des forces bien structurées qui sont là, qui tournent. Aujourd'hui, nous reconnaissons que dans la zone, s'il y a des petits trucs, c'est la frontière malienne. C'est là seulement. Et là aussi, nous avons bien positionné en tout cas les hommes qui sont actuellement là-bas sur le terrain et dont nous pensons que les choses vont bien.
Nous savons que les départements de Tilia et de Tassara sont sous état d'urgence. Comment vivent aujourd'hui les populations de ces départements? Est-ce qu'ils peuvent aspirer dans quelques temps voir cet état d'urgence élevé?
Ils vivent très bien. Très bien, comme ici à l'intérieur. Vous pouvez aller là-bas, vous allez vérifier ça. L'état d'urgence, effectivement, s'est mis, c'est pour effectivement prendre des mesures énergiques contre ces velléités. Hein, ces velléités qui sont là, isolées, des groupes d'individus qui n'ont rien à perdre et qui font des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est ça. C'est pourquoi je dis nous sommes là-bas. Et j'ai précisé la situation la plus complexe, donc c'est au niveau de la frontière malienne. Et je crois que avec les moyens qu'on a, les moyens que l'État nous a donnés, nous sommes en train de faire ce qui est bon. Donc la population, elle vit tranquillement, paisiblement. Ce que vous allez entendre, des petits bandits qui frappent, qui font, ça c'est toujours, qui essaient d'intercepter les marchés, les commerçants qui viennent des marchés là. Ça c'est nos gens qui viennent, c'est les gens qui viennent du Mali. Ils vont à la frontière, ils font leur forfait et ils disparaissent. Et avec tout cela, nous sommes aujourd'hui sur leur trousse. Ça, je vous l'ai dit. Puisque le positionnement de ce qu'on a nous permet, en tout cas, de voir, de comprendre, même jusqu'à l'intérieur du Mali.
Est-ce que la situation évolue vers une levée de cet état d'urgence?
On pense, en tout cas, avec ce que nous vivons aujourd'hui, on peut aller vers la levée. Mais prudence. Prudence, si au Niger tout va très bien, peut-être qu'au Mali ça ne va pas, au Burkina ça ne va pas. Donc prudence. Mais au point de vue intégrité territoriale, nous n'avons pas de problème.
Le département de Kony, il fut un temps où il a été signalé des hommes armés qui s'entraînaient dans une localité appelée Jimajini. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à cette situation? Comment est-elle gérée?
Vous l'avez posé la question. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils existent maintenant? Et vous entendez parler d'eux. C'est vrai, il fut un petit temps, un mois là, ça a commencé un peu à perturber la zone. Et nous avons agi vite. Aujourd'hui, on ne parle plus de Jimajini. On ne parle plus de Tepi. Il y a plusieurs villages. Et Jimajini de Niger. Donc tout ça là, aujourd'hui, on est là. C'est sous notre surveillance. Oui. Et on est d'accord avec nos collègues du Nigeria. Et ils le savent très bien aussi. Ils ont pris aussi des dispositions. Ils ont failli effectivement nous perturber la zone. Il y a la zone de Munzeka. C'était ça. Hein? Ils venaient au marché. Ils venaient au marché. Et c'est le même individu qui ont créé un petit couloir. Hein? Du Mali, là, ils viennent. Ils touchent la zone de Tassara. Ils montent. Ils touchent la zone de Bagaroua. Ils montent et ils pénètrent. Mais nous avons compris que c'était une voie qu'ils avaient organisée pour rentrer dans cette forêt de Babantap Kibabara. Nous avons compris ça. Et aujourd'hui, on est là. On surveille, on suit ça.
Quels étaient justement les efforts énergiques que vous avez entrepris à
ce... Je vais vous dire ça. C'est le résultat qui doit vous intéresser. Hein? C'est le résultat. S'il n'y a pas eu des efforts, ces gens allaient continuer à nous embêter. Vous-même, vous n'allez pas venir de Niamey. On va vous couper la route. Mais aujourd'hui, c'est sûr, sans problème, vous traversez la route, tranquillement. Donc, pour dire qu'on est là-bas. On prend toutes les dispositions nécessaires et on va même renforcer. On a fait les analyses. En train de faire des propositions parce qu'on a compris que c'était un couloir de trafic et qu'on a même compris du Nigeria, c'était ce couloir-là qui amenait même beaucoup de motos dans la zone-là du Mali. Vous avez compris ça? Aujourd'hui, je crois que ça va. Vous le connaissez, vous l'avez compris.
On sait que dans ce genre de situation, la collaboration entre forces de l'ordre, entre autorités et population locale est importante. Comment, à votre niveau, cette question est gérée?
Je le confirme, vous l'avez dit. Il faut qu'il y ait une très bonne collaboration. Si on arrive à juguler le plus rapidement possible, ça veut dire que c'est une très bonne relation entre nous, les autorités, les FDS qui ont la charge, les autorités locales. C'est de leur responsabilité parce qu'il s'agit de leur population qu'il faut protéger. Donc il faut qu'il y ait cette force-là. Et je crois que dans ces zones-là, les gens ont vite compris, très vite compris. Ils ont travaillé, ils n'ont pas besoin en tout cas de ces situations. Donc. Malheureusement qui leur empêche de vivre paisiblement. Ils ont compris, il fallait vite dire non, attention. Celui qui veut vivre avec nous, il n'a qu'à rester tranquille. Mais il n'a qu'à aller ailleurs faire ces choses. Voilà un peu. C'est une très bonne collaboration.
Nous en venons à vous à présent, monsieur le président du conseil régional de Tawa, Ilo Adamou. Selon vous, comment se porte la région de Tawa?
Disons, ça va. En dehors de tout ce que vous savez, c'est lié à la situation mondiale, c'est un fait. La morosité économique, c'est international, ce n'est pas qu'au Niger. et le Niger faisant partie intégrante donc de pays de la planète, naturellement le Niger est impacté et doublement, surtout avec les foyers de tension que vous connaissez à Difa et ici avec nos voisins du Mali, le problème à Libye, le Niger est concerné et ma région puisque nous sommes une région je dirais de migration ou ce que les gens connaissent un peu terre à terre, l'exode. Nous sommes un pays, nous sommes une région où l'exode est pratiqué, ce que nous appelons aujourd'hui migration, la migration. Et à ce titre, la région de Tawa est impactée aussi, ce qui aggrave un peu, en dépit donc de la situation mondiale, ce qui aggrave un peu la situation dans la région de Tawa. Mais globalement, Dieu merci, ça va.
Nous savons que Tassara et Kilia sont deux départements de la région qui sont sous état d'urgence. Comment cette question est vue par vous en tant que conseiller et quels sont en tout cas les efforts qui sont fournis pour en faire en sorte que les populations de ces deux départements puissent vivre comme tous les autres départements?
Bon, je crois que Dieu merci. Peut-être ceux qui sont derrière le mouvement terroriste, c'est pas ce qu'ils ont voulu, mais Dieu merci, le Niger est sauvé. Je dis le Niger est sauvé parce que c'est comme un îlot de paix dans une tempête d'insécurité. Quand vous voyez tous les foyers qui nous entourent et que nous n'avons qu'un état d'urgence, je crois que on peut se réjouir parce que les gens circulent normalement dans cette zone, on n'a pas interdit, mais la nuit vous ne pouvez pas circuler, certains marchés sont fermés, c'est une réalité. Moi je vois ça très correct parce que ça y va de notre survie en tant que nation, en tant que pays. On ne peut pas se permettre pour des considérations ou pour de réclamations des individus. Pour l'État n'a aucun intérêt à faire un état d'urgence s'il n'y a pas nécessité. Vous conviendrez avec moi. Si l'État a mis un état d'urgence dans cette zone, c'est que il y a une menace. Et cette menace, on doit prendre des mesures pour que nous puissions atténuer éventuellement les impacts. Les impacts sont là. Avec les excursions de ce mouvement terroriste du Nord-Mali qui rentre sur nos territoires et cherche à faire des opérations, mais Dieu merci jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi le coup d'éclat, peut-être qu'ils veulent, mais nos FDS sont aux aguets et je crois qu'ils ne réussiront pas à faire leur sale besoin. Et je crois qu'il faut saluer l'État pour l'effort d'anticipation et de clairvoyance qui a fait en sorte que vraiment ces zones-là soient surveillées. C'est pour une question de surveillance. Si tout est normal, l'État gagne quoi à faire un état d'urgence? Les marchés, certains marchés sont fermés parce que ces marchés, il faut le dire, pour nous, c'est devenu des bandits. Ce que vous n'autorisez pas, quand vous ouvrez le marché, c'est comme si vous l'autorisez. Ces mêmes gens, ils n'ont aucun lieu pour se regrouper. Si le marché est ouvert, ils s'organisent dans ce marché-là. S'organisent dans ce marché pour nous nuire. Alors, il faudrait bien qu'il y ait des mesures, et c'est ce que l'État a fait. Et moi, je crois que c'est tout à fait normal et juste. Et nous ne pouvons que vraiment soutenir ce genre d'initiative, ce genre d'idées qui visent vraiment à sécuriser les Niger.
Alors, est-ce qu'il y a des alternatives qui sont proposées aux populations? Parce qu'on sait que dans certaines zones, les gens ont cette difficulté de pouvoir même se déplacer. Et ils ont besoin de marcher. Est-ce qu'il y a des mesures d'alternative que vous proposez, en tout cas aux autorités au plus haut degré, à votre point de vue, qui peuvent permettre de soulager un peu certaines populations?
Voilà, merci beaucoup. Je crois que les populations ne souffrent de rien dans ces localités pour plusieurs raisons. Certes, cette mesure d'urgence, elle est prise. Mais n'oubliez pas que ça concerne des localités qui sont bien ciblées, bien connues. On n'interdit pas aux populations de mouvoir la journée, mais la nuit, vous devrez arrêter de circuler. Et c'est tout à fait normal. Donc tout mouvement la nuit est suspect. Et pour la petite histoire. Non, pour le marché, c'est fini. On ne revient pas dessus jusqu'à ce que la situation le permet d'ouvrir ce marché. Par contre, pour les certaines zones où il y a le réfugié, nous sommes en train de voir comment prendre en compte la population locale qui est, si vous voulez, démobilisée à cause de toutes ces mesures-là, et comment il faut aussi les aider puisque le HCR est là-dessus. Pendant que vous avez des réfugiés, ils sont avec des populations. Ils font tout avec les populations. Ils sont pris en charge. Donc, il y a des tractations. Comment aussi soulager un temps soit peu, donc aussi les souffrances de ces populations à travers, bien sûr, des investissements que le système des Nations Unies à travers les HCR est en train de faire. Et l'État a continué à faire ce qu'il fait dans ces localités-là. Il n'a pas arrêté, il le poursuit, que ce soit en termes d'eau potable, en termes de santé, tout ce que vous voulez. Rien n'a été arrêté, ça se poursuit.
D'autres départements de la région semblent-ils aussi menacés, et notamment à Konni. Et comment toute cette situation sur les frontières est prise en charge?
Moi, je crois que je vais vous dire mon point de vue en tant que d'abord citoyen de ce pays. Bien sûr, c'est mon appréciation personnelle. Pour le cas de notre frontière avec le grand voisin du Nigeria, il faut dire que l'immensité de cette frontière ne rend pas les choses faciles, mais je crois que ce que le FDS, le service de défense et de sécurité, sont en train de faire, ils sont en train de faire un travail de professionnel en jugulant à tout petit cas suspect. Mais pour le cas de Konni que vous avez dit là, en réalité, de tout temps, il y avait eu de petits bandits qui sont tentés de s'enrichir sur le dos de populations, qui n'a rien à voir avec les mouvements véritablement terroristes. Les coupeurs, l'histoire des coupeurs de route de Varayaya, ça c'est une vieille histoire, tout le monde le connaît. À un moment, ils ont été tabassés, ils ont été maîtrisés, et même maintenant, la situation est très, très sous contrôle, je peux vous garantir cela. Il n'y a aucune inquiétude. Je crois que les gens circulent librement dans ces zones, et quelle que soit l'heure de la nuit, il n'y a pas de restrictions. Ne serait-ce qu'à l'individu de savoir que rouler la nuit, ce n'est pas à cause d'un éventuel terroriste qu'il faut s'arrêter, c'est pour sa propre santé qu'il faut peut-être s'arrêter. Mais sinon, du point de vue menace sécuritaire, moi je crois que ce département ne souffre absolument de rien du tout. Hein. Il n'y a aucun problème. Des cas isolés, il ne manque pas, même dans les villes, les pays les plus ultra, si vous voulez, excusez-moi l'expression, ultra policiers ou machin, ou militaires. Ce genre de problème, vous n'avez pas de armes contre ça, si ce n'est que le renseignement. Sinon, comment vous pouvez imaginer que le noyau de défense des États-Unis soit frappé, par exemple le Pentagone? Donc c'est pour vous dire que ce genre de choses, il faut faire un travail de renseignement, il faut une collaboration de la population, puisque tous ces gens qui viennent faire ça, ils ne tombent pas du ciel. Ce n'est pas une pluie de ces hommes qu'on fait, c'est des hommes qui viennent, qui s'installent, qui ont d'abord un point d'atterrissage dans la communauté avant de passer à l'action.
Justement, il n'y a pas une défaillance à ce niveau?
Non, je ne pense pas qu'il y ait une défaillance. C'est-à-dire que quel que soit Alpha, celui qui vous suit là, vous ne savez pas qu'il vous suit. Il peut à un certain moment vous surprendre. Mais dans toutes les situations, dans tous les cas que nous avons vus, la réaction de nos FDS, de nos forces de défense et de sécurité a été à la hauteur. Et c'est ça qu'il faut se réjouir, dire que vraiment, et Dieu merci, nous avons en tout cas des forces de défense et de sécurité qui sont à plus d'œuvre pour sécuriser ce pays, pour sécuriser la population et leurs biens.
Autre défi auquel la région de Tawa fait face, c'est celui de la migration. Beaucoup de candidats à la migration transitent par là. À propos, dites-nous comment se caractérise l'impact de cette migration sur la région.
Vous voyez, des pays comme la Libye, c'est des pays de destination de cette migration. Le pays comme l'Algérie aussi, nos ressortissants vont dans ces pays, mais de plus en plus, cette taxe-là est très contrôlée et il est difficile de voyager, malgré que certains arrivent à franchir au risque de perdre leur vie même. Mais bon, de plus en plus, même les pays côtiers, qui sont aussi une destination, quand je dis pays côtiers, vous commencez déjà avec notre grand voisin, le Nigeria, des pays comme le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, nos ressortissants vont dans ces pays, en tout cas les ressortissants de la région de Tawa, et avec la situation économique que j'ai tantôt citée au niveau mondial, ce pays aussi n'échappe pas à cette situation, ce qui fait que le revenu que nos frères qui vont au notre diaspora, c'est que le rapatrier de la région de plus en plus, ça se fait un peu rare et limité. Compte tenu de tout ce que je viens de citer, que ce soit au nord ou vers le pays côtier.
On sait aussi que, en tout cas, de plus en plus aussi, il y a ces migrants justement qui passent par la région. Comment c'est perçu au niveau local et comment vous essayez de gérer un peu les conséquences qu'il y en a?
Naturellement, les conséquences, bon, bien sûr, j'ai parlé d'un aspect seulement de la migration en parlant un peu de mes frères et sœurs de la région. Mais de plus en plus, le Niger, c'est un pays de transit de la migration. Donc, tous ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest et même centrale, qui tentent de rejoindre l'Europe, parce que de plus en plus, par vol d'avion, c'est plus compliqué. Les gens préfèrent passer par ce désert-là, au risque de perdre leur vie, pour rejoindre les côtes maghrébines. Et c'est à ce titre qu'il faut dire... ça devient de plus en plus difficile et pour eux et pour nous, parce que je dis que le contrôle est renforcé. Au nom de la CEDEAO, nous ne pouvons pas empêcher un ressortissant de la CEDEAO qui vient jusqu'à Tawa et même qui se dirige vers Agadez. On n'a pas le droit de l'interpeller à ce moment précis, mais c'est peut-être d'Agadez, quand il cherche à rejoindre la frontière, que le contrôle est méticuleux, et ce qui fait que quand vous regardez à Agadez, ils sont une pléthore, si vous voulez, de migrants qui sont là et qui cherchent un échappatoire pour essayer de rejoindre donc les côtes maghrébines. Le Niger est un pays de transit. Notre région constitue aussi une sorte de transit par rapport à cette migration, parce que pour la plupart, ils sont de passage à Tawa. Et un passage important donc de ces migrants, tout naturellement, ça va impacter, si vous voulez, les services sociaux de base. Il y a ceux qui restent, le passage n'est pas très bref. Il y a ceux qui arrivent à Tawa, peut-être ils n'ont même pas de ressources pour continuer. Et pour moi, c'est à cela que ça constitue aussi une menace pour la sécurité, parce que celui qui se trouve dos au mur sans argent, sans rien, et qu'il a un peu sa force et même peut-être ses techniques, hein, de cambriolage et autres, vous voyez ce que cela fait, et même les attaques à main armée. Donc Dieu merci, nous n'enregistrons pas beaucoup de ce genre de cas d'attaque armée, de à main armée ou en tout cas de... Mais je sais que c'est une possibilité pour quelqu'un qui est en déplacement, qui est en voyage en terre, je dirais, inconnue pour lui, et qu'il cherche à se débrouiller pour ça, c'est une question de survie, c'est un réflexe naturel. Donc tout ça là, pour moi, ça impacte la sécurité, ça impacte les services sociaux de base, puisque imaginez, si nous enregistrons, par exemple, en un laps de temps, 1000 personnes qui atterrissent dans la région, c'est une pression énorme sur la consommation d'eau, éventuellement, de manière limitée, bien sûr, sur l'électricité. C'est aussi, je ne parle pas de l'éducation, parce que pour qu'on parle de l'éducation, il faut que le séjour soit un peu prolongé. Si le séjour est prolongé, naturellement l'éducation sera impactée, les soins de santé n'en parlent pas, parce que sur 1000 personnes, même s'ils sont vaccinés, il y aura certains qui vont tomber malades. C'est lié au climat, c'est lié au changement, c'est lié à la fatigue du voyage, c'est lié à beaucoup de paramètres. Donc c'est pour vous dire que cette migration, qu'elle soit de transit, j'ai parlé déjà de la migration de nos compatriotes, de nos frères, en quoi ça impacte la région, et du point de vue financier, et même si vous voulez, il y a aussi des maladies que ces gens-là peuvent nous amener, que nous ne connaissons pas, parce que ce n'est pas des maladies qui sont liées au Sahel. Donc toutes ces questions-là sont là. Donc,
comment vous essayez de prévenir, en tout cas, les conséquences négatives de ces passages?
Bon, la préparation que nous sommes en train de faire, il faut le dire, les collectivités, nous sommes un peu en avance, l'État fait, déjà avec le service, le contrôle classique de la police, il y a des dispositions qui sont prises, et, puisque eux-mêmes, ça attire leur attention, dès qu'il y a un certain flux, ils le savent. Donc, que ce soit dans la ville ou sur les tronçons, ils doivent renforcer un peu ce contrôle pour éviter que des individus mal intentionnés nous ravissent la vedette, comme on dit. Mais nous, on a pris le devant, je disais tantôt, les collectivités territoriales, avec l'appui d'un projet qui nous aide et qui nous a permis d'être édifiés sur toutes les conséquences de la migration. C'est le projet de gestion des défis migratoires au Niger, le projet PROGEM. C'est un projet mis en œuvre par la GIZ qui a comme bailleur de fonds, donc au financement. C'est le financement et c'est le fonds fiduciaire de l'Union européenne, mais aussi le ministère de la coopération au développement allemand, BMZ, je crois. Donc ce sont ces deux partenaires-là qui appuient ces projets et ces projets. Comme région d'intervention, la région de Tawa, la région d'Akadez et la région de Zander. À travers ce projet, nous avons fait un travail minutieux d'analyse des conséquences de la migration sur tous ces aspects, que ce soit les aspects économiques, que ce soit les aspects liés au développement local.
Par rapport au projet dont vous avez parlé de migration qui a lieu entre la région d'Akadez, Tawa et Zander, est-ce qu'on peut avoir une idée des actions phares qui sont prévues dans le déroulé de ce projet?
Je crois qu'avec ce projet, comme je le disais tantôt, nous avons eu l'opportunité donc de connaître en profondeur ce que la migration, ses impacts et comment, si vous voulez, prendre à charge ces préoccupations. D'abord, pour les collectivités locales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin d'être renforcés, quand je dis renforcés, du point de vue capacité, que ce soit dans les services sociaux de base, mais aussi sur le plan de développement économique. Donc, c'est à cela que le projet a eu à réaliser un certain nombre d'infrastructures et il continue à les faire sur nos propositions. C'est nous qui proposons donc les idées du projet, ce que nous appelons mesures, donc pour mitiguer donc les conséquences de la migration. Donc, nous avons proposé d'infrastructures, en tout cas de tous ordres, que certaines vous n'allez même pas voir directement les liens avec la migration, mais nous le voyons. Nous avons prévu, nous avons déjà dans le pipeline des classes à construire. C'est pour contenir d'abord nos propres enfants, pour qu'eux-mêmes les retenir, que ce ne soit pas qu'on est à la migration, c'est déjà quelque chose. Il faut qu'ils restent dans le circuit de l'éducation. C'est aussi une autre manière de réduire l'impact, si vous voulez, de la migration, donc la migration circulaire, ce que nous appelons migration circulaire. Et nous avons aussi prévu la construction, si vous voulez, des centres de santé. Il faut que ces gens-là soient soignés, puisque s'il n'y a pas les soins, vous allez voir que quelqu'un qui est à Tassara va se déplacer pour venir à Tawa pour se faire soigner. Et ça dépend du traitement. Si c'est un traitement qui prend le temps, ça veut dire qu'il y a déjà aussi un impact sur les services sociaux de base de la localité de Tawa. Donc, que ce soit Tawa, que ce soit Tassara ou ailleurs, nous avons essayé, avec l'appui de ce projet, de renforcer d'abord sur le plan éducatif, appuyer les collectivités, sur le plan sanitaire, appuyer les collectivités, à construire bien sûr des maternités, des centres de santé intégrés, renforcer les districts sanitaires, surtout celui d'Abala qui n'a pas un bloc opératoire et que nous avons proposé dans le cadre donc de ce projet proposer la construction d'un bloc opératoire, toute chose qui va alléger un peu les souffrances des populations de cette zone et même les migrants en passage dans cette zone. Et c'est la construction des marchés, je ne sais pas si vous, en passant si vous allez vers Niamey, vous allez voir à Badagchiri, l'ancienne autogare de Badagchiri est en train d'être carrément reconstruite. Ça aussi c'est l'œuvre de ce projet-là, le marché de Lela qui sera aussi construit pour permettre le développement d'un certain nombre d'activités commerciales qui doivent retenir d'abord nos propres enfants. C'est ça aussi une contribution à mitiguer, si vous voulez, les conséquences de la migration. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Ce qu'on est en train de faire à Tawa, on est en train de le faire dans les autres régions aussi d'intervention du projet.
Enfin, nous donnons la parole à l'acteur de la société civile, Mohamed Yatan, coordinateur régional de l'Union régionale de la Coordination nationale des travailleurs CNT Tawa. Et je le disais, il est membre du cadre de concertation et d'action citoyenne des acteurs de la société civile du Niger. Mohamed Yatan, comment se porte la région de Tawa?
La région de Tawa se porte, je peux dire, bien, sauf des départements qu'on peut citer à situation d'insécurité. Je peux dire l'exemple de Tilia, l'exemple de Tassara. Donc vraiment, ces zones vivent des situations vraiment avec une haute insécurité, donc ce qui amène les autorités à prendre des mesures, donc qui sont des mesures d'urgence.
Effectivement, vous parlez des départements de Tassara et de Tilia. Quelles sont les nouvelles que vous avez de ces départements et comment vivent ces populations?
Des contacts que nous avons de nos répondants qui sont là-bas, ce dont nous savons au niveau de Tilia, donc avec les mesures qui sont prises, donc les mesures d'urgence, donc c'est à partir de 20h30 donc que sont prises ces mesures par rapport aux mesures qui sont prises. Donc toutes les fermetures sont faites, donc il n'y a aucune activité qui peut se faire de 20h30 jusqu'à 6h30 du matin. Donc vraiment, c'est des situations qui vont dans l'intérêt de faire pour que les gens soient sécurisés, mais au-delà que les mesures qui sont prises aussi comportent des situations qui font en sorte que la population vit une autre situation, j'allais dire difficile. Parce que je peux évoquer, entre autres, donc la question sanitaire, donc pour l'évacuation des malades. Vous voyez, donc vraiment avec les mesures d'urgence, ce n'est vraiment pas facile. Tant bien que des moyens de communication sont utilisés, par exemple pour le cas de Tilia, où quand il y a une situation d'évacuation, les habitants appellent le maire appelle donc les forces de défense de la place pour voir en fait pré-vérification que vraiment ce n'est pas une force alerte et qu'il faille donc apporter l'assistance. Également, il faut souligner aussi donc la question sur les mesures donc économiques. Donc ça crée une morosité économique, parce que lorsque donc des camions viennent avec des bagages, donc des marchandises, j'allais dire, donc eux qui ne sont pas déchargés pour mener le commerce à bien dans la nuit, donc vous voyez vraiment ça cause un handicap. Et donc c'est des mesures difficiles qui sont là, mais au-delà aussi, vous voyez, donc quand des mesures comme ça sont prises, donc ça a aussi un impact sur la question de santé, au-delà de la santé, donc l'éducation, je voudrais dire aussi. Donc vraiment, c'est un peu cela, ce n'est vraiment pas facile. Donc ces mesures qui sont prises doivent encore être améliorées pour voir au fait que les gens vivent dans un moyen de communication plus assoupli qui puisse permettre aux partis donc de se retrouver. Ce n'est pas bon d'avoir l'insécurité. Et vous savez, aujourd'hui, la question de sécurité, l'État doit se donner tous les moyens que cela requiert, parce qu'on dit que la sécurité n'a pas de prix. Donc on doit se donner les moyens pour que les gens vivent paisiblement dans leur pays, pour qu'ils fassent leurs activités comme cela se doit. Donc j'estime que vraiment, si ces gens vivent cette situation aujourd'hui, ce n'est pas de gaieté, ce n'est pas parce que ça plaît à X ou Y, ce n'est dans l'intérêt de personne, car lorsqu'ils vivent en insécurité et qu'ils sont comptés département de la région de Tawa, eh bien, cela a un handicap pour la région de Tawa. J'estime que vraiment, pour le bon développement et pour l'épanouissement donc de la région et du pays dans son ensemble, il faut vraiment une sécurité pour tout le monde.
En tant qu'observateur, pour vous, quels sont les principaux facteurs de l'insécurité?
D'abord, sur le plan travail. Parce que lorsque les gens n'ont pas de travail, ils se lèvent le matin, ils se posent des questions, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais ça met une insécurité. Et ça, nous savons qu'est-ce que ça peut engendrer. Déjà, le chômage, lorsque vous ne travaillez pas, ça engendre donc les consommations de stupéfiants, ça crée des situations de bandits. Donc, vous voyez, c'est tout un tas de mots qu'on peut citer que cela fait ressortir. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de l'insécurité, mais l'insécurité alimentaire elle-même est un problème. Des mesures préventives doivent être prises même pour la question de sécurité. On doit prendre des mesures préventives. Quand tout à l'heure je vous évoquais la question de lorsque nous constatons et nous sentons une menace, nous devrons la déclarer, mais c'est des mesures préventives. Donc vous voyez, donc je pense que l'esprit n'est pas de constater il y a une situation, eux, de faire une réaction négative, mais plutôt faire une réaction positive qui puisse permettre d'aller de l'avant.
Est-ce que vous pensez que le fait que cette région de Tawa partage des frontières avec le Mali, avec le Nigeria, est l'une des sources de ces problèmes, s'il y a en termes de sécurité?
Vous savez, tout à l'heure, j'avais évoqué des situations qui sont des réalités, les nôtres d'abord. C'est vrai, aujourd'hui, c'est que ces pays vivent tels que le Mali, donc le Nigeria, c'est vraiment des situations où il faut prier Dieu pour que vraiment la paix se retrouve dans ces pays, au-delà, donc notre pays, au premier rang. Donc moi, je me dis que ça a un impact, parce que vraiment, pour ceux qui maîtrisent la zone, pour ceux qui connaissent et qui vivent dans la zone, savent pertinemment de quoi il est question. Parce que Dieu sait ce qu'ils vivent et ce qu'ils voient. Parce que je me rappelle à une rencontre quand on était à une assise au plan national, donc des acteurs de la société civile, où je voyais des gens qui leur moyaient quand ils se posaient la situation du DIFA. C'est pathétique. Et parce qu'à distance, nous, on ne sent pas ça. Mais eux, quand ils font, ils arrivent en arrêt, vraiment, ça porte toute l'attention. Donc moi, je dis bien, appartenir donc à ces frontières n'exclut pas vraiment qu'il y ait des pratiques qui de nature peuvent avoir un impact sur notre vie de tous les jours, et c'est pourquoi je dis bien, constatant cela, donc à l'intérieur, dans notre pays, des mesures doivent être prises pour que la sécurité pour tous les Nigériens soit garantie, n'est-ce pas, et au-delà faire un calcul, un sursaut pour que des mesures d'accompagnement puissent être créées pour que nous puissions nous retrouver dans les conditions de ne pas nous sentir en insécurité. Parce que tout à l'heure, je l'ai évoqué, le manque de travail amène une insécurité. Parce que lorsque vous ne travaillez pas, ou que vous travaillez quelque part, vous êtes éjecté de votre travail illégalement, eh bien, ça peut créer d'autres situations. Et donc, ce sont ces pratiques aussi qui peuvent être cadrées afin d'éviter autre chose.
Est-ce que vous avez l'impression que la question de la sécurité est gérée de la manière dont il faut?
Vouloir vous répondre objectivement voudrait qu'on soit de la partie afin d'avoir un bilan, parce qu'en tant qu'acteur, nous ne portons pas un jugement subjectif. S'il faut attendre un jugement objectif, c'est de planifier. Est-ce que ce qui est injecté est réellement injecté? Comment il est utilisé? Quels sont les moyens qui sont souhaités? Est-ce que les conditions ont été créées? Et après, on présente un bilan. Sur la base de ce bilan, nous pouvons porter notre jugement.
Tout à l'heure, vous avez voulu évoquer le fait que chaque citoyen doit apporter ça. Comment se présente la situation de la collaboration entre forces de l'ordre et population locale, la situation de collaboration entre population et autorité locale?
Vous savez, la population, l'autorité, elle est autorité, hein. Elle crée les conditions d'approche. Parce que je vous dis bien, cette communication de pouvoir transmettre, elle venait d'eux. Je me rappelle, à Tawa, on a eu une mission qui était venue spécialement pour sensibiliser toutes les couches afin de porter leur contribution pour détecter ou pour dénoncer des personnes vraiment qui sont de nature à porter préjudice donc à la sécurité de notre pays. Et ça, c'est une campagne. Après cette campagne, il a été donné mandat à tout le monde de porter l'information à un niveau selon sa responsabilité. C'est vrai, après un temps, c'est passé, mais on est resté. Vous savez, nous avons une pratique. Aujourd'hui, s'il y a une situation, nous n'agissons que quand la situation est présente. Nous ne prenons pas des mesures. Pour nous, c'est fini, c'est fini. Il faut que ça rebondisse pour que nous puissions dire « Ah, la situation, elle est là ». C'est le constat que j'ai fait. Même quand on fait un peu de situation, on constate qu'il y a des attaques, n'est-ce pas? Et après, donc, on laisse tomber, et puis, vous voyez, après, on ne prend pas d'autres mesures. Donc, vous voyez, il y a un laxisme, j'allais dire. Pour revenir à votre question, s'il se trouve que nous sommes dans une situation où il est demandé à ce que chacun apporte sa contribution, eh bien, je crois que même les autorités, avec ce que nous vivons aujourd'hui, un cadre doit être créé, un cadre de concertation qui puisse impliquer toutes les couches afin de responsabiliser chaque communauté. Par exemple, je vous dis aujourd'hui, le choix que Tilia a fait de s'adresser à la mairie n'est pas un faux choix fortuit. C'est eu regard aux responsabilités des élus qui vivent avec la communauté, qui savent aujourd'hui si dans tel quartier on dit qu'un tel est malade. ils savent pertinemment que ce monsieur-là, il existe dans tel quartier et que ça s'avère qu'il peut porter l'information. Parce que c'est lui qui les a appelés, donc ils sont en contact avec lui. Ils sont des conseillers. Ils sont dans le quartier, ils vivent dans le quartier. Donc, c'est des méthodes qui doivent être créées à travers ce cadre pour plus réfléchir. De façon préventive, qu'est-ce que nous devrons faire ? Quand ça nous arrive, qu'est-ce que nous devrons faire ? Et après, qu'est-ce que nous devrons encore faire ? Parce que ce sont des étapes. Avant, pendant et après. Mais malheureusement, nous ne réagissons que quand la situation se présente à nous. Et dès que nous arrivons à finir avec la situation, hop, c'est mis de l'autre côté. Il n'y a plus de stratégie à garder, il n'y a plus de méthode à sauvegarder en termes d'acquis pour permettre à ce que la prochaine fois on puisse éviter ce qui nous est arrivé. Tant bien que ça arrive de Dieu, c'est fatal, on ne peut pas, mais quand même nous devrons faire un travail qui puisse vraiment montrer que nous sommes en train de faire, et à travers ce vœu donc nous pouvons être entendus par notre Seigneur le Tout-Puissant.
Vous avez l'impression que, en tout cas par exemple à la mesure où on a invité toutes les populations à dénoncer des cas suspects, vous avez l'impression que cette campagne est enterrée, que depuis on ne parle plus de ça?
Et pour être clair et honnête avec vous, la question de sécurité est une question où les civils n'ont pas assez d'attention. Ils ne sont pas pleinement impliqués. Et je dis bien, le cadre à travers les autorités peut permettre à ce que chacun puisse s'opiner à travers les arguments qui sont avancés. On peut responsabiliser des hommes capables et bien choisis du domaine pour défendre et mettre en application ce qui a été décidé. Donc il n'est pas question de dire qu'on va parler de sécurité pour convier des personnes qui vont décider en lieu et place des hommes qui sont choisis pour faire le travail. Non, mais plutôt donner des avis qui puissent être constructifs de par l'expérience que les uns et les autres ont, parce que c'est ensemble. Vous avez la connaissance du terrain, mais il y a des résidents, il y a des locaux qui ont des stratégies et qui connaissent bien ce qui se passe. Parfois certaines choses même se trament avec eux. Mais lorsque vous ouvrez le climat de confiance en allant vers ces gens, eh bien, ils peuvent vous donner tout le secret. Et là, je crois qu'on peut abattre l'ennemi d'une façon stratégique.
Comment vous pensez qu'aujourd'hui, de façon durable, on peut garantir la sécurité dans le Niger de façon générale et pour la région de Tawa?
D'abord, la première des pistes, c'est que l'État est en train de faire de son mieux lorsqu'il débloque tous ces mois que nous entendons plus de 15% du budget. Et aussi, ce qui nous surprend, nous ne pouvons pas comprendre que nous ayons des bases militaires implantés au Niger et que nous puissions connaître des attaques. Parce que lorsqu'on parle de base militaire, lorsqu'on parle de drone, une allumette qui bouge, un drone peut voir. Ces appareils dont il parle là, il suffit qu'une allumette bouge, on peut voir. Mais nous avons du mal à comprendre, malgré tous ces moyens, ces installations, des attaques, nous en connaissons, et des pertes de vie humaine, nous avons toujours à enregistrer. Que l'âme de ces derniers repose en paix, et que vraiment nous disons que vraiment ça doit changer. Ça doit changer parce que le constat, il est amer.
Quand vous dites que ça va changer, qu'est-ce qui doit changer?
Au fait, qu'est-ce qui doit changer?
Des bases militaires étrangères.
Non, quand je dis bien la question de bases militaires, je dis bien, nous, c'est la question que nous nous posons. En tant que civils, nous avons des bases militaires partout. Et on nous dit qu'il y a des attaques. Ces appareils qui sont mis là, ils servent à quoi? C'est la question chaque fois que nous nous posons, parce qu'à des rencontres en tant qu'acteurs de la société civile, c'est la question que nous nous posons. Ça sert à quoi? Donc, nous disons bien, ces moyens doivent être utilisés à des fins pour assurer la sécurité des biens et des personnes qui vivent au Niger. Parce qu'ils sont implantés au Niger. Donc, nous avons du mal à comprendre aujourd'hui, étant implantés, qu'on constate des attaques où nous perdons des hommes et femmes, des FDS, dont je voudrais dire, qui sont là pour défendre donc la patrie du Niger.
Sur ce prend fin le forum d'aujourd'hui qui porte sur sécurité dans la région de Tawa, comment se présente la situation des départements sous état d'urgence. Il ressort que la région de Tawa fait face à deux défis, à savoir le défi de la migration étant un sol de transit pour certains candidats à la migration. Il y a le défi sécuritaire le long de ses frontières avec des pays voisins tels que le Nigeria et le Mali. Selon le gouverneur de Tawa, des efforts sont déployés pour sécuriser les populations et leurs biens à travers notamment des patrouilles mixtes qui sillonnent les zones sensibles, ainsi que la mesure d'état d'urgence en vigueur dans les départements de Tassara et Tilia, et dont les populations se porteraient bien d'après le gouverneur. La nécessité d'impliquer les populations locales dans ce combat pour la sécurité a été soulevée dans cette émission. Nous étions en compagnie du gouverneur de la région de Tawa, Moussa Brahman, du président du conseil régional de Tawa, Ilou Adamou, et de Mohamed Yatan, acteur de la société civile. Présentation Alassane Kouzi Mohamadou.